Prenons de nouveau nos Bibles et regardons dans la deuxième épître de Paul à Timothée et reprenons dans le chapitre 2 à partir du verset 1, surtout jusqu'au verset 7. Et je voudrais vous parler de la persévérance dans la foi. Ici, Paul est en prison à cause de l'Évangile. Et c'est lui qui écrit à Timothée comme son enfant. Et ici, il s'agit pas de son enfant physique, mais surtout spirituel. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Voilà ce qui fortifie tous les enfants de Dieu, tous ceux que Dieu a élus par sa grâce, pour qui le Seigneur Jésus est mort et qu'il a appelé par son esprit. Tout est par grâce. C'est dans la grâce de Dieu qu'il a choisi ses enfants et c'est par la grâce de Dieu que Jésus-Christ s'est livré à la mort afin de payer la dette et de justifier, acquitter, déclarer juste chacun qu'il a élu. Et puis, c'est par sa grâce qu'il appelle chacun. C'est pourquoi nous devons prêcher l'Évangile, parce que il a plu à Dieu à travers la prédication de l'Évangile d'appeler, d'attirer à Christ ceux pour qui il est mort. Pour le monde, ceux que Dieu a laissé à leur sens réprouver, ils entendent les mots de cet Évangile et même d'autres ont la même Bible que nous et qu'ils lisent les paroles qui sont écrites, mais tant que l'Esprit n'agit dans leur cœur, ils n'entendront jamais ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ et ils poursuivront leur propre voie. Alors, il y a un véritable combat contre l'Évangile, contre la vérité telle que c'est révélée ici dans la Bible. Ceux qui glorifient le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses, contrairement à ce que l'homme croit et ce qui est populairement prêché que non, c'est vrai, Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. Donc, c'est pourquoi Paul écrit à Timothée afin qu'il soit fortifié dans cette foi et qu'il persévère dans la foi. La persévérance n'est pas de nous-mêmes, mais c'est plutôt Dieu qui préserve dans cette grâce ceux qui sont ordonnés à ce salut. Donc, il écrit avec tendresse à Timothée, sachant ici l'affection qu'il a pour lui et qu'il soit fortifié dans cette grâce. Et notez qui est en Jésus-Christ. Beaucoup de gens parlent de la grâce, mais ici, c'est écrit « Qui est en Jésus-Christ ?» C'est à travers le Seigneur Jésus-Christ que Dieu fait grâce aux pécheurs. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que la colère de Dieu qui reste sur les pécheurs. Alors, quand il dit « Fortifie-toi », là encore, c'est ce que la grâce de Dieu fait face à l'opposition. Que nous soyons fondés dans cette foi, de fortifier, d'être fortifié dans cette foi, d'être persuadé par l'Esprit de Dieu qu'il n'y a pas d'autre foi, qu'il n'y a pas d'autre salut que ce qui est dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alors, cette tendresse que Paul exprime ici envers Timothée, je dois dire que c'est cette même affection que tous ceux qui appartiennent à Christ partagent. Nous sommes une famille en Christ, nous sommes membres de cette église, cette assemblée spirituelle qui est en Jésus-Christ. Alors, nous nous fortifions dans la grâce, mais nous sommes aussi fortifiés dans cette fraternité qui est en lui. Donc, quand il dit de se fortifier dans cette grâce, Ça, c'est contre toute opposition, contre toute erreur, contre tous ceux qui sont des faux prédicateurs. Et nous ne devons jamais accepter une union avec des gens ou une fraternité où cette foi n'est pas fondée solidement dans la grâce qui est en Jésus-Christ. D'autre part, un plan de salut. Et pour eux, c'est un plan. Voilà ABC. Et voilà ce que l'homme fait. Dieu propose, mais c'est l'homme qui dispose. C'est le contraire à ce que dit la Bible, où l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. La volonté de l'homme n'est rien, mais les gens veulent toujours insérer, ajouter la volonté de l'homme dans cette question du salut. Mais la Bible est claire qu'une telle doctrine doit être opposée parce que le seul vrai évangile est celui qui donne toute la gloire à Christ. Ce n'est pas un système, ce n'est pas un plan, mais ici, c'est la grâce qui est en Jésus-Christ. Et c'est l'Esprit qui fortifie chacun des enfants, mais surtout les prédicateurs. Ici, Paul est en train d'écrire à Timothée en tant que prédicateur de l'Évangile. Et que ce même Évangile que nous annonçons aux autres, que nous-mêmes nous soyons fortifiés dans cet Évangile qui est en Jésus-Christ. Nous nourrissons de cet Évangile et est ainsi de la plénitude de ce que l'Esprit révèle dans notre cœur, alors nous annonçons cet évangile à d'autres. Et voilà comment Paul encourage Timothée de persévérer dans la foi. Donc dans le verset 2, encore nous voyons que cette foi, cet évangile, cette déclaration de Christ ne doit pas rester avec nous-mêmes. Il dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins ». Donc, ici, peut-être le monde trouve cet évangile comme quelque chose de nouveau, jamais entendu. Mais Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Ce que nous annonçons n'est pas isolé, n'est pas caché, mais c'est en présence de beaucoup de témoins. Ça peut être dans le sens d'avoir prêché ça publiquement. Mais plus que cela, je crois que Paul ici se réfère aux Écritures dans l'Ancien Testament et les témoins que nous avons dans les Écritures. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des témoins parmi les hommes, que cette parole, cette Bible est pleine de témoins. Depuis Moïse jusqu'à tous les prophètes, c'est écrit dans le livre des Actes qu'ils ont témoigné de celui-là que nous annonçons, le Seigneur Jésus-Christ. Et que ce message doit être publié publiquement, sans crainte, sans rester dans la peur ou bien avec crainte de faire fâcher des gens qui écoutent. Non, il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Nous sommes une génération maintenant, mais le jour viendra où le Seigneur m'enlèvera à la mort. Mais ma prière, c'est que d'autres qui m'entendent, ceux-là, le Seigneur suscitera aussi pour leur génération. » Pour aller annoncer ce même message, ce que je prêche aujourd'hui, je n'ai pas reçu des hommes, mais c'est à travers les témoins qui sont ici dans les Écritures. Et donc, nous continuons à prêcher, nous persévérons dans cette foi, dans la foi même, mais en l'annonçant aux autres, sachant que c'est le Seigneur qui fera de ce message ce qu'il veut. Et il appellera chacun dans chaque génération ceux qui il a choisi et pour qui Christ est mort. Donc quand il dit « confie-le à des hommes fidèles », ce n'est pas que les hommes sont fidèles en eux-mêmes, Mais quand on dit des fidèles, c'est-à-dire ils sont des fidèles de Christ, ils sont attachés par l'Esprit de Dieu qui est attaché à Christ, qui est le seul fidèle, le vrai témoin de Dieu. Et donc, de cette grâce que nous avons reçue de Dieu en Jésus-Christ, nous confions ce message à d'autres qui, avec cette même persuasion, vont se lever et l'annoncer, déclarant tout le conseil de Dieu, sans hésiter. Comme Paul a dit à Timothée dans le premier chapitre, que Dieu nous a pas donné un esprit de crainte ou timidité, mais c'est cette grâce qui nous fortifie et fidèle non seulement au message de Christ, mais fidèle dans ce sens qu'il ne sert pas le Seigneur pour leur propre bien ou par convoitise de gagner, que ce soit de l'argent ou bien que ce soit la popularité. Ce n'est pas pourquoi nous prêchons. Je dois dire que les véritables prédicateurs se trouvent souvent dans des lieux isolés. Au lieu d'être populaire dans le sens que nous voyons des faux prédicateurs de nos jours, mais si Dieu nous a placés où il nous a placés, même si le nombre soit peu de ceux qui nous entendent et qui nous écoutent, nous sommes conscients que c'est là que Dieu nous a placés, donc nous le servons avec joie dans ces contextes. Ce qui est clé ici dans le verset 2, que ce soit des hommes, c'est écrit, capables d'enseigner aussi à d'autres. Pas simplement enseigner, mais enseigner qui? Enseigner Christ. D'ouvrir cette parole à chaque fois et de faire sortir de ce texte inspiré de Dieu tout ce qui concerne la gloire de Christ. Et ainsi, le Seigneur bénira pour les générations futures, non seulement pour aujourd'hui, mais pour que d'autres, dans les temps à venir, entendent ce même évangile et que l'évangile soit transféré d'une génération à d'autres de cette manière fidèle. Alors que le Seigneur nous bénisse dans ce sens. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui, quel que soit le fait que quelques 2000 ans ont passé depuis que Paul a donné cette instruction à Timothée et que ce que nous sommes en train de lire est préservé pour nous, inspiré par Dieu et préservé pour nous. Nous sommes cette génération-là dont Paul parlait. Nous bénéficions de l'enseignement de Paul à Timothée et de Timothée à ceux de sa génération, ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. C'est à travers cette parole que le Seigneur m'a converti mon cœur. C'était à travers le témoignage d'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6. Mais tout de même, c'est la parole. Et c'est ce que le Seigneur bénit. Donc, dans le verset 3, c'est ici qui démontre la nécessité de la persévérance dans la foi. Parce qu'il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Quand on entend le terme soldat, donc déjà nous savons que c'est une guerre, c'est un conflit. Et c'est Dieu lui-même qui l'a ordonné ainsi. Si vous lisez par exemple dans Genèse chapitre 3 et le verset 15, depuis la chute dans le jardin, Dieu lui-même a dit qu'il allait mettre l'inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Ce conflit doit endurer jusqu'à la fin des temps. La postérité de la femme, c'est Christ lui-même, c'est lui qui est cette postérité, comme Paul écrit aux Galates, dans Galates chapitre 4. Et donc nous devons nous entendre à un tel conflit. Si nous sommes en train de prêcher le véritable évangile, il y aura de l'opposition. Puisque l'homme ne veut pas que Dieu est toute la gloire. Mais dans Galates chapitre 4, verset 4, Paul dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Voilà la postérité de la femme. Né sous la loi, cette même loi que Dieu ordonnait et que l'homme n'a pas pu obéir, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est venu se soumettre à cette loi pour l'accomplir. Parce que pour être juste, Dieu doit, sa loi doit être satisfaite, sa justice doit être satisfaite. Et donc, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Cette loi nous condamnait tant que Christ n'est pas encore venu et achevé, accompli cette loi, non seulement dans la lettre, mais dans l'esprit de cette loi. Donc, il nous fallait être rachetés qui étaient sous cette condamnation de la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Christ est le Fils de Dieu depuis l'éternité, mais pour nous d'être Fils de Dieu, il fallait cette adoption que Dieu, par sa grâce, nous enlève de notre condamnation et nous sauve maintenant et nous justifie par cette œuvre de Christ. C'est à travers l'œuvre de Christ que nous recevons cette adoption pour être appelés fils de Dieu. Et parce que vous êtes fils, verset 6, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, Père ». Ça, c'est un terme de tendresse, que sachant que Dieu nous a fait grâce en son fils, le Saint Jésus-Christ, alors nous nous adressons à Dieu, pas avec crainte, mais sachant que Christ a pris la dette. Mais c'est un combat. Alors c'est pourquoi Paul dit « souffre avec moi ». Il était déjà en prison, en train de souffrir à cause de cet évangile, et il appelle Timothée à souffrir avec lui comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc, c'est certain que ceux qui croient à cet évangile et qui prêchent cet évangile de la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ souffriront la persécution et seront assujettis aux afflictions et aux tentations qui viennent avec la prédication de l'évangile. Christ lui-même, dans Jean chapitre 16 et le verset 33, dit cela à ses disciples avant d'aller à la croix lui-même. Il dit, je vous dis, bien, commençons dans le verset 31, Jésus lui répondit, vous croyez maintenant. Et c'est vrai, c'est la croyance, la foi vient de Dieu. Personne ne peut croire sans que Dieu lui-même ne lui fasse cette grâce. Donc, vous croyez maintenant. Et c'est ce que nous disons. Nous nous disons croyants. On ne se donne pas la gloire dans cette croyance, mais la grâce de Dieu nous a fait croire. Mais il dit dans le verset 32, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Et c'est en train de leur dire ce qui devait se passer lorsque les opposants, les pharisiens, les sadducéens, les hommes religieux allaient venir l'arrêter pour aller le crucifier, que Christ devait aller à la croix seul. Mais il dit, il n'était pas seul parce que le Père était avec lui. Donc, en tout ce que les hommes ont fait de Christ, même jusqu'à sa crucifixion, c'est Dieu le Père qui suivait le tout et qui ordonnait le tout pour sa gloire, que Christ devait souffrir seul sans que l'homme soit à son côté. Cela nous démontre encore que le salut est entièrement en Christ et son œuvre, sans que l'homme n'agisse quoi que ce soit. les disciples devaient se disperser, s'en aller. Et puis après sa résurrection, Christ est venu maintenant les rassembler de nouveau. Mais il dit dans le verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Sans cette grâce de Dieu en Jésus-Christ, personne ne peut se tenir, personne ne peut se tenir pour prêcher cet évangile de Christ. Il y en a qui tentent, ils apprennent quelques aspects de l'évangile et ils disent « Ah, mais ça c'est quelque chose de bien, de nouveau annoncé. » Donc ils se mettent à l'annoncer, mais quand l'opposition arrive, on voit cela s'en aller. Parce que tout ce qui n'est pas fondé sur la grâce de Dieu n'est pas de Dieu. Quand on réfléchit sur nos propres ministères, nous qui sommes placés par la grâce de Dieu et nous prêchons cet évangile de Christ, il faut se poser la question, mais pourquoi je continue aujourd'hui? Quoique d'autres sont venus et sont partis tout en prétendant être prédicateurs de Christ, mais ils n'ont pas pu endurer l'opposition ou l'isolation qui vient. Parce que nous ne sommes pas soutenus par des grandes organisations et nous ne sommes pas sous la tutelle de qui que ce soit dans une religion, mais nous sommes des individus que Dieu lui-même a placés dans notre génération de se lever et annoncer Christ dans toute sa clarté, l'évangile. Mais comme Christ dit ici, afin que vous ayez la paix en moi. Cela démontre que cet évangile que nous avons annoncé n'est pas simplement des doctrines intellectuelles que nous prenons et nous annonçons aux autres, mais non, c'est la personne de Christ. Et par sa grâce en lui, c'est lui qui est notre paix. Notez comment c'est écrit, afin que vous ayez la paix en moi. Il y en a qui cherchent la paix, mais ne peuvent pas avoir la paix parce qu'ils ne connaissent pas ce Christ. Ils ont une idée d'un Jésus qui leur a été prêché, mais ils n'ont pas Christ. Ça, c'est la différence. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ils ont fait ce qu'ils ont pu de notre Seigneur Jésus-Christ en le crucifiant, mais en tout cela, il a vaincu le monde dans ce sens. Alors, c'est Christ, quand il parle d'être soldat, un bon soldat, il faut savoir que c'est Christ d'abord qui est le bon soldat et qu'il est le capitaine, c'est lui qui dirige son peuple. Et nous servons à son plaisir. Mais il faut s'entendre à des difficultés comme un bon soldat, exactement comme Christ lui-même a enduré, a persévéré jusqu'au bout pour la gloire de son Père. Alors, dans le verset 4, il dit là, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, ou bien un athlète. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Alors cela s'applique aux prédicateurs, mais il faut dire que cela s'applique aussi à tous ceux qui sont enfants de Dieu, que comme un soldat, une fois enrôlé sous la commande maintenant d'un général, il ne s'occupe plus de ses affaires dans ce monde, mais il est entièrement attaché aux ordres de celui qui le commande. Et c'est un bon exemple de ce que nous sommes sous Christ qui est notre capitaine. Nous rompons avec toute alliance qu'on avait auparavant avec ce monde et surtout dans la religion. On ne peut pas avoir un pied ici, un pied dans l'évangile. Non, ça nous engage entièrement. Et notre dévotion est entièrement à la cause de Christ. Et par la grâce de Dieu, nous ne devons jamais nous dévier, de cette cause. Imaginez un soldat qui, pour un certain temps, combat avec un côté, et puis après, maintenant, il se joint à l'ennemi. Celui-là est un traître, ça ce n'est pas un bon soldat. Mais je dois dire que si le Seigneur a fait cette œuvre de grâce en nous, nous ne pourrons jamais nous lier de nouveau avec l'ennemi. C'est pourquoi nous sommes séparés, et ceux qui s'opposent, on ne peut jamais nous joindre avec eux ou chercher la paix avec eux, sachant que nous servons Christ et Christ seul. Donc nous nous séparons des affaires de ce monde, que ça soit religieux, que ça soit la politique. Il y a beaucoup de soi-disant prédicateurs qui sont engagés dans la politique. On les voit dans les rues en train de démontrer avec les politiciens autres. Tel n'est pas le cas d'un beau soldat. Si Christ nous a séparés à lui, donc c'est à lui et c'est à son plaisir que nous servons et non pas les hommes. C'est comme Paul a dit en Galates chapitre 1, que s'il voulait servir au plaisir des hommes, il ne pouvait pas être serviteur de Christ. Donc soyons encouragés, c'est dans ce sens-là aussi que nous persévérons dans cette foi, sachant que c'est Christ qui est venu, c'est Christ qui a payé notre dette, et c'est Christ qui nous a appelés à lui, et c'est Christ qui nous détient. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 13, c'est ici que Paul démontre encore qui il sert. Il faut que les gens sachent qui nous servons. C'est comme des soldats qui sont en uniforme. Ça décrit, démontre déjà de quel côté ils sont. Nous ne portons pas d'uniforme extérieur, mais notre uniforme, c'est la justice de Christ imputée à la croix. C'est le message que nous avons annoncé qui déclare à ceux du monde qui nous servons. Et dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 13, Paul dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont partie à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Il prend un exemple de l'Ancien Testament où les Lévites qui servaient dans le temple, c'était leur seule fonction. Ils étaient engagés jour et nuit dans le service du temple et en offrant les sacrifices. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de temple physique ou d'autel physique auquel nous servons, mais Christ est ce temple. Et Christ est cet autel et son sacrifice. Voilà ce qui nous occupe, de prêcher Christ et Christ crucifié et rien d'autre. Alors, c'est ainsi que Paul utilise cet exemple d'un bon soldat qui ne doit pas s'embarrasser des affaires de la vie, mais de vivre au plaisir de celui qui l'a enrôlé. Celui qui nous a enrôlé, ça c'est Christ lui-même. Et aussi dans le verset 5, l'exemple de l'athlète, quand il y a une occasion de sportive et les athlètes sont en compétition, c'est écrit, il n'y a pas de couronne, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Cela n'est pas pour nous dire de retourner encore à la loi et voilà la loi que nous devons suivre, mais les règles concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est le message, c'est la doctrine du Christ. Et de combattre selon les règles, cela veut dire selon ce qui est écrit, parce que les règles sont écrites pour que chacun qui combat, il sait déjà les règles. Bon, pour nous, la règle, c'est de glorifier Christ et de ne jamais chercher la gloire en nous-mêmes, mais de lui donner la gloire en toutes choses, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans notre conversation de tous les jours, et d'être couronné, cela veut dire d'avoir Christ comme notre couronne, n'est pas possible sauf selon ce que Dieu lui-même déclare ici dans les Écritures. Et ce que Dieu déclare dans les Écritures, c'est que le salut est entièrement du Christ, du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas nos œuvres, mais c'est son œuvre. Ce n'est pas nos sacrifices, c'est son sacrifice par lequel nous sommes sauvés. Alors voilà la course qui est devant nous, comme Paul, je sais pas si c'est Paul, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux et le chapitre 12. Si vous tournez là, regardez avec moi, Hébreux chapitre 12, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce péché qui nous enveloppe, c'est notre nature pécheresse, c'est l'incrédulité. Nous avons cela en nous-mêmes, en tout temps, même si nous sommes rachetés et appelés par l'Esprit. Mais comme quelqu'un qui court, il se débarrasse tout vêtement qui puisse affecter sa manière de courir. Donc, pour nous, rejetons le tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, voici, avec persévérance. Ça, c'est le sujet que nous sommes en train de poursuivre. Dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, voilà les règles, courons, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef, c'est lui qui est à l'origine de la foi, et consommateur, c'est lui qui assure cette foi jusqu'à la fin, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, verset 3, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Alors, c'est ainsi que nous pouvons nous réjouir de cette couronne qui est Christ. Ce n'est pas une couronne physique, mais c'est d'avoir Christ comme notre représentant, d'avoir Christ comme notre sauveur, d'avoir Christ comme notre justificateur. Et voilà ce qui nous réjouit. Donc, trois exemples ici. Le soldat, l'athlète dans le verset 5, et puis dans le verset 6 et 7, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Donc, le laboureur, ce n'est pas encore en train de nous dire que ça dépend de nos forces, mais c'est un exemple d'un laboureur qui sort dans le champ et qui laboure la terre et qui sème la sémence. Voilà ce que nous sommes avec Christ dans la prédication de l'Évangile, en témoignant, mais aussi endurant les difficultés qui viennent dans cette carrière d'être laboureur pour Christ. Et il faut s'entendre à des difficultés, mais si nous sommes à Christ, c'est lui qui nous garde. Alors, c'est pourquoi Paul dit, considère ce que je dis. C'est se référant encore au verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce. Considère ce que je dis et par la grâce de Dieu, continuez. Restez fidèle à ce message, même si le monde poursuit d'autres voies. Quand il dit, comprends ce que je dis, la seule manière de comprendre, c'est par la grâce de Dieu et selon ce que l'Esprit continue à nous enseigner. Je terminerai avec un verset dans 1 Corinthiens chapitre 2. Ça commence dans versets 1 et 2 où Paul dit, moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, un seul message. Le témoignage de Dieu, c'est Christ et Christ crucifié. C'est pourquoi il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Annoncer qui il est, annoncer pourquoi il est venu, annoncer ce qu'il a accompli en venant et en donnant sa vie à la croix, annonçant pour qui il est venu et surtout, cinquièmement, où il est maintenant. Il règne maintenant victorieux, ayant accompli tout ce que le Père lui a envoyé d'accomplir et du trône du ciel, c'est lui qui dirige toutes choses pour assurer que chacun pour qui il est venu soit effectivement attiré à lui. Mais dans le verset 7 à 10, comment est-ce que quelqu'un puisse comprendre ce message? Ce n'est pas par nos illustrations, ce n'est pas à force de nos paroles, mais c'est toujours par l'Esprit. Il dit ici dans le verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Il parle là des chefs religieux. Mais notez, dans le verset 7, qu'il avait destinée pour notre gloire, la gloire de ceux que Dieu a élus pour qui Christ est mort. Mais si ça dépendait de l'homme de saisir cela, même les chefs religieux du siècle n'ont point connu ou saisi ce que Dieu était en train d'accomplir à travers son Fils lorsqu'il est venu sur cette terre. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Lorsque nous annonçons Christ, nous n'avons pas vu Christ physiquement, que l'oreille n'a point entendu. Nous prêchons ce message à des gens qui sont sourds spirituellement, qui ne peuvent pas entendre, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Si ça dépendait de l'homme de prendre sa décision, personne ne sera sauvé. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors, si nous l'aimons, c'est parce que Dieu a déjà préparé notre cœur pour recevoir. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Or, alors, en rien, l'homme ne puisse se donner la gloire. Toute la gloire revient à Christ. Voilà la manière que nous pouvons comprendre lorsque Paul dit à Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors que nous soyons fortifiés et que nous rendons gloire à Dieu du fait que ceux qu'il appelle, il aussi préserve dans cette foi. Amen.